réplique Eros et Agapé avec Lucrèce Luciani Zidane et Michel Terechenko. Eros et Agapé, tel est le titre du livre classique du théologien Anders Nygren, paru pour la première fois en Suède dans les années 30 du XXe siècle et réédité aujourd'hui aux éditions du CERF avec un avant-propos de la psychanalyste Lucrèce Luciani Zidane. Eros veut dire amour, Agapé aussi. Eros et Agapé, amour et amour. Deux traditions, grecque et chrétienne, habitent le même vocable. Comme le dit un philosophe cité par Nygren, Platon ne sait rien d'Agapé et saint Paul ne sait rien de l'Eros. Mais nous, nous sommes, sans toujours en avoir conscience, les héritiers lointains de l'un et de l'autre. Il importe donc au plus haut point de savoir, quand nous aimons ou quand nous invoquons l'amour, ce que nous devons à saint Paul et ce que nous devons à Platon. Aussi demanderai-je à Lucrèce Luciani Zidane et au philosophe Michel Terechenko, qu'est-ce que l'Eros, qu'est-ce que l'Agapé et en quoi nous autres modernes ou post-modernes sommes-nous encore concernés par cette dualité initiale? Lucrèce Luciani Zidane.
Eh bien, alors, l'éros, c'est l'amour de désir grec, et l'amour, en fait, l'amour humain. Et l'agapé, c'est l'amour de Dieu. Alors, il faut tout de suite l'amour de Dieu dans le christianisme. C'est l'invention du christianisme pour définir l'amour de Dieu. Il faut tout de suite préciser que dans ce cas de figure, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu. Dieu est le sujet de l'amour. Et c'est ça qui fait la vraie révolution de l'amour dans le sens du christianisme.
Dieu est amour.
Dieu est amour.
Oui. Ce qui n'est pas en effet chez les Grecs.
Pas du tout.
Où il est doté d'une sorte d'impassibilité.
Voilà. Chez les Grecs, on va vers Dieu, on tend à aller vers Dieu. Dans l'agapé, c'est Dieu qui s'abaisse et qui donne son amour à l'humain.
Oui, mais alors, l'agapé aussi, Dieu est amour, et en même temps, l'amour humain se trouve transformé par l'amour de Dieu. Vous citez dans votre livre l'Acédie, sur lequel nous reviendrons, Lucrèce Luciani Zidane, ce passage très célèbre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Alors, quel est cet amour, mais un amour que saint Paul revendique pour lui-même en tant qu'homme? En quoi cet amour est-il agapé et en quoi se distingue-t-il de l'amour grec, par exemple?
Il est agapé justement dans le sens où Paul le dit, c'est-à-dire que c'est un amour qui vient de Dieu. Parce que toute la question dans la chrétienté, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est aimer comme lui, ou plutôt comme elle l'agapé. C'est ça qui est extrêmement important. L'homme est invité à répondre à cet amour inouï, sans intérêt. C'est ça l'agapé, c'est un amour qui ne connaît pas l'intérêt, c'est un amour
bénévole, spontané, gratuit.
Totalement gratuit, qui est donné, c'est la grâce. L'homme reçoit cet amour et il doit y répondre et le diffuser à son prochain. Donc c'est vraiment un mouvement descendant. C'est un abaissement de Dieu. On n'avait jamais vu ça, ni chez les Juifs, ni chez les Grecs. Folie pour les uns, enfin...
Scandale pour les autres.
Scandale pour les autres. C'est voilà la caractéristique, la spécificité de l'agapé.
Oui,
alors là, je précise, que Nigren, dans son livre, insiste fortement sur le fait qu'il n'y a pas d'amour humain dans l'agapé, justement. Ce n'est pas du tout... Il fait bien là... Et alors, toute la polémique... Toute la polémique peut partir de là. Hein. Il n'y a pas d'amour humain. C'est un amour strictement du côté de Dieu. Dieu oui. comme sujet de l'amour.
Oui, mais c'est quand même un amour qui affecte les relations des hommes entre eux. Donc il y a une part d'agapé dans ce que le christianisme appelle, après le judaïsme, même si Nigren introduit une véritable coupure entre les deux, l'amour du prochain. L'amour du prochain est en quelque sorte lui-même tout imprégné d'agapé. Amour désir pour ce qui est de l'éros, amour don, amour sacrificiel de l'agapé, mais cela vaut pour l'amour de Dieu, au double sens de ce génitif, cela vaut aussi pour l'amour du prochain. Ou non,
Lucrèce, c'est-à-dire que, comme je vous le dis, c'est l'homme, le problème, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer comme lui ou comme
d'aimer
elle.
Comme Dieu, oui. D'aimer comme Dieu, mais d'aimer l'autre homme comme Dieu aime.
Comme Dieu aime. D'accord. Le sujet est toujours Dieu.
Le sujet est toujours
Dieu. Le sujet est toujours Dieu.
Michel Terechenko.
Oui, je crois qu'il faut revenir sur les distinctions d'abord entre Eros et Agapé. Au fond, l'idée principale de Nigren, c'est qu'effectivement, une distinction entre ce qu'il appelle deux mobiles fondamentaux. Bon, il y a deux mobiles fondamentaux dans cette conception de l'amour entre, d'une part, les Grecs et de l'autre côté, effectivement, chez saint Paul et dans la pensée chrétienne. Avec l'idée, effectivement, que. L'agapé est, comme il l'explique, un amour non motivé. C'est l'idée d'un amour sans raison, non motivé, gratuit, spontané, mais ça au compte de la spontanéité. Et qui est effectivement, je crois que c'est un aspect très intéressant dans sa présentation, un amour qui descend. L'amour de Dieu pour les pécheurs et l'amour de l'homme pour les ennemis. Une insistance très importante sur la question de l'amour pour les ennemis. Alors que l'éros, bon, pour le dire très brièvement, et c'est essentiellement vrai dans la conception platonicienne, c'est une aspiration, un désir, un éros de l'âme pour le divin, pour les idées auxquelles l'âme est apparentée par nature, etc. Ça, je crois que c'est le premier point. Et effectivement, il met en place une distinction conceptuelle, théorique, assez fondamentale, et qui est, je crois, très, très juste. C'est cette question de l'absence de motivation et la définition de Dieu comme amour. Vous avez parlé de la question de l'impassibilité. Ça, ce serait une autre question, mais qui relèverait de la théologie pure, et je ne pense pas qu'on va parler de ça. Et au fond, il y a quatre amours. Il fait une distinction entre quatre amours. Il y a l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de l'homme pour l'homme, et l'amour de l'homme pour lui-même. L'amour de Dieu, et la difficulté, c'est entre le 1 et le 2. L'amour de Dieu pour l'homme est en effet donc cette agapé, cet amour, cette dépense, cette spontanéité. Très bien, sans raison. L'amour pour le prochain, je vais venir tout de suite au 3. L'amour pour le prochain doit être participé de cet amour, effectivement, sans raison, immotivé pour tout homme, et en l'occurrence vis-à-vis du prochain, ce qui est au fond une espèce d'amour impossible. Bon, si on prend les textes de Freud, on dit l'amour du prochain, mais ça n'existe pas. Bon. L'amour de l'homme pour lui-même, passons, c'est l'amour de l'homme pour lui-même, il n'y a pas lieu d'en discuter, encore que ça mériterait qu'on y revienne. Le vrai problème, c'est la vraie difficulté que souligne, qui est une espèce d'amour impossible, si je puis dire. C'est l'amour de l'homme pour Dieu. Parce que l'amour de l'homme pour Dieu ne peut pas être de même nature, si je puis dire, que l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de l'homme pour Dieu est un amour prédestiné, est un amour auquel nous sommes appelés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va expliquer dans son livre qu'il y a une espèce de corruption, si je puis dire, de l'agapé divine par la problématique de l'éros dans la patristique, au Moyen-Âge, etc. L'idée que Dieu, chez saint Augustin, enfin bon, etc., qui est une espèce de finalité naturelle de l'âme pour Dieu, vers le bonheur, vers la béatitude. Et toutes ces questions vont être reprises au XVIIe siècle dans les querelles autour du pur amour, etc. Et donc, la vraie difficulté, c'est qu'il n'est pas possible, effectivement, pour l'homme d'avoir pour Dieu cet amour immotivé qui réciproquerait. Et c'est important de la notion de réciprocité ou de réciprocation parce qu'on la retrouvera au XVIIe siècle, justement. Ça, c'est la difficulté majeure, c'est l'amour impossible, si je puis dire.
Oui, en même temps, cette difficulté nous est aujourd'hui, un peu étrangère. Nous autres, nous parlons d'amour, nous nous interrogeons sur ce que c'est que l'amour, et sommes-nous les héritiers d'Eros ou d'Agapé ? C'est-à-dire, quelle est la part d'Agapé et la part d'Eros dans l'amour tel que nous le vivons encore ? qu'il s'agisse de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu et de toutes les formes d'amour humain. Lucrèce,
oui, c'est-à-dire qu'on est complètement empreint de on est pétri par cette nouveauté, en fait, cette nouveauté de l'amour dans le christianisme, ce que j'ai appelé, moi, enfin, la querelle d'Eros et Agapé. Parce qu'au départ, Nigrène insiste bien sur le fait qu'il y a une dichotomie entre Eros et Agapé. Donc, comment l'homme peut essayer de s'en sortir par rapport à cette querelle, comment il peut...
Franchement, on peut sauter beaucoup de médiations et répondre à cette question en disant... Ce qui met d'ailleurs en question la perspective de Nigrène, c'est au fond ce qu'il reste de la conception de l'agapé aujourd'hui dans une perspective qui n'est pas celle nécessairement de l'amour chrétien, etc. C'est fondamentalement l'idée du désintéressement, de l'amour désintéressé ou du don désintéressé, de ce qui relève du désintéressement. Alors Nigrène, évidemment, fait une différence entre l'amour et l'altruisme et la bienveillance, etc. Mais indépendamment de ces distinctions-là, il y a quand même l'idée très présente dans notre esprit que le véritable amour ne cherche pas son intérêt, comme dit saint Paul. Au fond, si vous voulez, notre problématique est une problématique du pur et de l'impur, de ce qui est égoïste et de ce qui n'est pas égoïste. Et ça, c'est ce qui reste dans les temps modernes, dans la réflexion moderne, chez de très nombreux auteurs contemporains. Je pense à Derrida, je pense à Lévinas, etc., où la problématique du désintéressement est absolument centrale. Alors, j'ai sauté beaucoup de médiations, mais c'est ça qui reste, c'est l'idée de la non-motivation du désintérêt. Parce qu'il y a chez Nigrène, et ça, à mon avis, c'est un point problématique avec lequel je suis malgré tout, le postulat de base avec lequel je suis en profond désaccord, c'est que l'idée que l'éros, tel qu'il entend chez les Grecs, est égoïste ou égocentrique. Et ça, je pense que cette thèse-là est une thèse philosophiquement fausse et même théologiquement fausse.
Oui, c'est parce qu'il dit... Nigrène, quand il parle de l'éros, il ne faut jamais oublier qu'il parle de l'amour humain.
Oui, mais il dit en effet que, puisqu'il instaure une opposition radicale entre éros et agapé, et il considère que éros est un amour en effet égocentrique. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai chez les Grecs eux-mêmes, puisque l'éros platonicien est un passage, un viaduc, dit Jankélévitch, entre le sensible et l'intelligible. Donc c'est une manière pour l'homme, une sorte de conversion, de se dépouiller de ses intérêts propres pour accéder à une connaissance plus vaste et aux normes du bien. Mais pour en revenir à notre situation actuelle, je me demande s'il n'y a pas, justement, si ce n'est pas ça qui serait intéressant à étudier, une part d'agapé dans ce que nous appelons aujourd'hui l'éros, c'est-à-dire le désir humain. Et je trouve un renfort paradoxal chez le pape Benoît XVI. Alors, vous ne serez sans doute pas d'accord parce que vous lisez son encyclique « Dieu est amour » Lucrèce Lucianis Zidane de manière assez critique, mais c'est une encyclique très belle où il dit même si initialement l'éros est surtout sensuel, ascendant, fascination pour la grande promesse de bonheur, lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se posera toujours moins de questions sur lui-même, il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre, il se préoccupera toujours plus de l'autre, il se donnera et il désirera être pour l'autre. C'est ainsi que le moment de l'agapé s'insère en lui, sinon l'éros déchoit et perd aussi sa nature même. Et Benoît XVI se réfère dans ce raisonnement à la distinction classique de la théologie entre amour possessif et amour oblatif, amour concupiscentiae et amor concupiscentiae et amor beneventiae. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'il serait intéressant d'étudier par-delà l'opposition de Nigrène, c'est-à-dire les passages, les hybridations d'éros et d'agapé?
Est-ce qu'un éros agapique peut exister? C'est là toute la question. Moi, ma réponse est non.
Ah bon, carrément.
Ma réponse est non. Un éros agapique, je ne vois pas comment ça peut exister.
Et votre réponse?
Ma réponse, c'est qu'il y a un grand malentendu. C'est quand vous citez effectivement la philosophie platonicienne et la théorie grecque de l'éros, ce que c'est le mouvement de l'âme qui se dépouille du corps et qui retrouve sa patrie originelle, intelligible, etc. On ne peut pas identifier l'âme et l'ego. l'âme n'est pas, ne peut pas être définie en termes modernes comme un ego. À mon avis, il y a une... Ça, c'est évidemment un problème. Je voudrais citer simplement un petit passage de Bossuet. Parce que cette question de l'intérêt et du désintéressement, du caractère désintéressé que pourrait revêtir l'amour pour Dieu, a fait l'objet d'une énorme controverse à travers tout le XVIIe siècle, dans ce qu'on appelait donc le pur amour. Avant de citer Bossuet, je voudrais citer cette phrase de Malebranche, où Malebranche dit « Ne me demandez pas pourquoi je veux être heureux, demandez-le à celui qui m'a créé. » Ce qui veut dire que cet amour de Dieu, ou pour Dieu, n'est pas un amour égoïste. Il est la réponse à la finalité à laquelle je suis créé, pour la réponse à la finalité pour laquelle j'ai été créé. Autrement dit, c'est la finalité même de la création de se réaliser en quelque sorte en Dieu, ce qui n'a rien d'égoïste. Quand Nigren dit que l'éros est égocentrique et qu'il n'est pas théocentrique, à mon avis, c'est totalement faux. C'est théologiquement totalement faux. Tous les théologiens thomistes, et pour prendre simplement Bossuet, effectivement, au XVIIe siècle, ont expliqué, n'ont pas expliqué autre chose que chercher le bonheur, c'est répondre à la vocation à laquelle Dieu nous a créés, sauf que le bonheur est précisément en Dieu. Donc Bossuet écrit ceci. Ainsi, aussi selon saint Augustin, l'amour désintéressé, loin d'exclure le motif de la récompense, en tant qu'elle est Dieu même, le comprend dans son désir. Son éros. Bon. Et donc, je pense que cette thèse, je trouve que l'ouvrage de Nigren est admirable. C'est un très beau livre. C'est un livre extrêmement intéressant à lire et passionnant à lire. Je pense que le postulat anthropologique sur lequel il repose est indéfendable. Je pense qu'il est faux. Je pense qu'il est indéfendable. Non seulement il est indéfendable chez les Grecs, bon, mais il est chez Platon, par exemple. Mais je pense qu'il est indéfendable dans la pensée, dans la tradition chrétienne. Par exemple, la phrase que je viens de citer, aussi bien de Malebranche que de
Mais ça, ça c'est la part, si j'ose dire, d'éros qu'il y aurait dans l'amour pour Dieu, si je vous ai bien compris. Mais la question que je pose, à la suite d'ailleurs de Lucrèce et Siani Zidane, c'est quelle est la part d'agapé qu'il peut y avoir dans l'amour humain, c'est-à-dire l'amour au sens sensuel et sentimental du terme.
Toutes les doctrines classiques du sentiment moral depuis le XVIIIe siècle sur la bienveillance nous ont expliqué que la bienveillance n'est pas intéressée, qu'elle n'est pas égoïste, que ce soit chez les peu importe les philosophes anglais du XVIIIe siècle qui ont expliqué ça, c'est un intérêt pour le bonheur d'autrui qui est désiré pour lui-même et qui d'ailleurs, et c'est la manifestation de cette capacité à désirer le bien d'autrui pour lui-même, qui est la catégorie morale par excellence, puisque précisément tout repose sur les distinctions entre intérêt et désintéressement. Moi, ce que j'interroge et ce qui me paraît fondamentalement problématique, c'est précisément cette distinction entre, disons, égoïsme et altruisme, intérêt, désintéressement, pur, impur, etc. Il y a un intérêt au bonheur d'autrui, où le bonheur d'autrui peut être recherché pour lui-même, c'est un intérêt, parce que c'est un affect. Autrement dit, la bienveillance, lorsque nous avons de la bienveillance pour autrui, nous sommes affectés par ce qui arrive à autrui, ça nous affecte. Ça ne rend pas cet affect égoïste, ça nous affecte. Et nous sommes soucieux, comme vous le disiez, effectivement, du bonheur d'autrui pour lui-même. Nous ne sommes ni dans l'éros égocentrique, ni dans l'agapé, totalement désintéressé, sacrificiel, oblatif et dans le don. Et la réalité humaine n'est même pas un mixte des deux, est en réalité transcende cette distinction qui me paraît, en plus, venir de profondément moderne, venir des moralistes français du XVIIe siècle, et nous raisonnons en termes de voilà, intérêt, désintéressement.
Oui. Mais je vais vous poser une question plus précise de Lucrèce Siani Zidane, en restant pour le moment à la question de l'amour sentimental, puisque, après tout, c'est cette question qui, curieusement, est abordée par le pape dans son encyclique, du moins pour ce qui est du passage que j'ai lu. Qu'est-ce qui se passe quand on aime d'amour quelqu'un? Quand on a le cœur qui bat pour quelqu'un, il dit, il y a de l'agapé dans les roses, vous dites un amour agapique n'est pas possible. Alors, je voudrais vous citer Jean Kélévitch, le traité des vertus. Et je voudrais voir votre réaction à l'un et à l'autre à précisément cette description de Jean Kélévitch. Il parle de l'amour-sentiment. Une fois au moins, dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Aussi se rappelle-t-il avec une reconnaissance infinie cette courte saison de sa jeunesse où il fut, comme tous les amoureux, vrai, naturel et désintéressé. Où pendant quelques semaines au moins, il cessa d'aimer l'argent, oublia de revendiquer ses droits et d'éblouir la galerie, se révéla modeste et spontané, n'eut d'autres soucis en ses jours bénis que le bonheur de quelqu'un, d'autres plaisirs que les plaisirs d'un autre, se réjouissant de sa joie et souffrant de ses peines, craignant de sa crainte et espérant de son espoir. Il n'est presque personne, même parmi les plus flétris et les plus déformés, qui ne soit momentanément redevenu simple et authentique pendant ces années. Il n'est pas de bourgeoise conventionnelle qui n'ait eu ainsi sa minute d'innocence et d'intensité passionnée. Et donc là, je vous renverse votre définition. Qu'est-ce que serait l'amour s'il n'avait pas cette dimension, cette composante agapique ici décrite par Jean Kelevitch?
Alors,
Lucrèce Lucien Zidane.
Alors, ce que vous répondrez, Nigraine, parce que en fait, il y a pas un, il le dit bien dans son livre, il y a pas un bon amour et un mauvais amour. Il parle pas en termes de valeurs. Il cherche à caractériser les deux amours en question. Ce qu'il vous répondrait, c'est, lui, il examinerait cette citation et il chercherait quel est le mobile, ce qu'il a appelé le mobile, qui sous-tend ce passage. Il chercherait si l'amour de cet homme se rapporte au mobile de l'éros, donc du désir grec, avec, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans l'éros, il y a toujours de l'objet. Il y a l'amour, d'ailleurs c'est la définition aussi de l'amour, quand on aime, on aime quelqu'un, enfin il y a un objet. Dans l'agapé, il n'y en a pas, il n'y a pas d'objet dans l'agapé, il n'y a que le sujet, et le sujet c'est Dieu, je répète. Eh bien, je pense que Nigraine, parce qu'il a examiné toute la théologie, tout le Nouveau Testament, à partir justement de ces deux mobiles. Est-ce que la théologie de Saint-Augustin, par exemple, réassortit au mobile d'Eros ou au mobile d'Agapé? Vous savez, si vous avez lu le livre, donc, vous savez qu'il dit que toute la théologie augustinienne, en fait, est sous-tendue par le mobile de l'Eros.
Oui, c'est ça.
Et ce qu'il dit aussi toujours ce qu'il dit, c'est qu'on peut pas appartenir aux deux mobiles à la fois.
Alors justement, qu'en est-il de la description de Jean Kelevitch?
Évidemment, c'est le mobile de l'éros, bien sûr.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Que, mais oui, c'est ce que répondrait Nigraine.
Et que vous répondez-vous?
Bien sûr, je réponds
vous
la même chose. Je réponds la même chose.
Et vous, que répondez-vous, Michel Terechenko?
Je pense que la grande difficulté, c'est la définition, d'abord de ne pas avoir une définition purement conceptuelle de l'amour et de rappeler que l'amour est d'abord effectivement un sentiment et que c'est un affect. Alors, naturellement, la citation que vous avez citée, c'est un affect qui nous ennoblit, qui nous élève, qui nous dépouille de notre médiocrité humaine, de nos petits intérêts, etc., qui tout d'un coup, effectivement, est une espèce d'ennoblissement de notre propre existence. Ce qui est intéressant chez Nigraine, et ce que vient de rappeler Lucien Zidane, c'est que, d'après ce que dit Nigraine, l'amour de Dieu, au fond, ne se porte sur personne. Et ça, c'est une question très intéressante. Parce qu'effectivement, elle dit qu'elle n'a pas d'objet. Et c'est parce que l'homme n'a aucune valeur, n'a aucun mérite, n'est rien. Et il n'existe d'une certaine manière que parce que d'une certaine manière, il est l'objet de cet amour totalement immotivé. Dans la citation que vous venez de citer, c'est une relation entre deux êtres qui existent l'un pour l'autre, qui ont de la valeur l'un pour l'autre, je ne dis pas du mérite, mais qui existent dans leur consistance propre. Dans ce que dit Nigraine sur l'agapé, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas le mettre au fond, la citation que vous avez citée de Yankelevitch ne pourrait pas vraiment être mise au compte de l'agapé, l'autre n'existe pas, il est sans mérite, c'est pour ça qu'il va dire que chez Luther, il y a une reprise de la conception de l'agapé, etc. C'est-à-dire que l'autre est un véritable pur néant et n'existe effectivement que parce qu'il est cet objet sans raison, c'est-à-dire d'aimer un être qui n'a aucune raison d'être aimé, qui est un pur néant, etc., et se porte sur
un
lui
ennemi,
sans raison.
Un ennemi à l'occasion.
Oui, un ennemi dans la relation humaine. Mais en tout cas, mais l'idée que l'homme est absolument sans aucune valeur et que l'objet de l'amour n'a aucune espèce de valeur.
Mais c'est
l'agapé.
C'est ça qui est difficile.
C'est l'agapé selon Nigraine.
Selon Nigraine, c'est
mais
ça.
Mais est-ce que c'est vraiment rendre justice à la tradition chrétienne, parce que malgré tout, par le fait même que Dieu est amour, eh bien, le christianisme, après le judaïsme, érige en principe suprême, ou pour parler comme Nigraine, en motif fondamental, l'amour du prochain. Et dire de l'amour du prochain qu'il peut procéder du fait que le prochain n'est rien parce que l'homme n'est rien, c'est quand même difficile à entendre, parce que la grande beauté du christianisme, elle est contenue par exemple dans l'évangile selon saint Matthieu. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, dit le Christ. Et juste à ce moment-là, lui répondent, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, que nous t'ayons nourri, ou avoir soif, que nous t'ayons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger, que nous t'ayons recueilli, ou nu, que nous t'ayons vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison, que nous soyons venus vers toi? Et le roi leur répond, oui, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des moindres de mes frères, vous l'avez fait à moi. Donc ça, c'est quand même ça, la grande révolution du christianisme. L'amour du prochain comme émotion religieuse fondamentale. Bien, et on sait les conséquences pour l'Europe, pour l'Occident. Comment concilier cela et cette idée qu'on aime quelque chose qui ne mérite absolument pas d'être aimé, qui n'est absolument rien? Je vois là, moi, une contradiction difficile à avaler. Quand je vous entends parler ainsi, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une thèse gnostique que d'autres choses. Mais peut-être je me trompe, Michel Terechenko.
Ce sont des sujets vraiment très, très difficiles. Parce que, à la fois, bien sûr, alors, bon, on a parlé de Nigraine, hein, donc on peut laisser, si vous voulez, de Nigraine. Il y a la citation que vous venez de faire, effectivement, des Évangiles. Il y a le mot magnifique de Pascal, la nuit du mémorial. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est-à-dire pas pour n'importe qui, c'était bien pour toi. En fait, du point de vue théorique, si vous voulez, et quand je dis théorique, ce n'est pas du tout spéculatif. Hein. Quand on dit que Dieu est amour, on introduit en Dieu effectivement une affectivité. Et ça, du point de vue intellectuel, si vous voulez, ou du point de vue théorique, introduire une affectivité en Dieu, c'est extrêmement difficile. Parce que ça veut dire qu'il dépend d'eux, de l'autre précisément, qu'il s'agisse de l'autre dans sa nudité, dans son néant, ou de l'autre dans son existence singulière, etc. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. Hans Jonas, dans le livre « Le concept de Dieu après Auschwitz », que vous connaissez bien sûr, lorsqu'il est dit « on ne peut pas conjuguer tous les attributs divins, la toute-puissance, la liberté, la sagesse et la bonté. » Je rajouterai l'impassibilité. Il dit « moi, ce que je sauve, c'est la bonté. Je dois sauver la bonté divine. » Mais je prends l'exemple inverse. Dans l'histoire de la pensée, mais peu importe, parce que c'est un vrai débat théorique. Malebranche, par exemple, expliquait très bien. Non, la bonté, c'est un concept purement anthropomorphique. Dieu est en réalité impassible. Dieu s'aime infiniment lui-même, il n'aime pas l'autre, etc. Donc c'est très difficile lorsqu'on introduit en Dieu un affect. L'homme est doué d'affect, mais l'affect nous rend vulnérables. C'est une vulnérabilité à l'autre, l'affect.
Oui, mais une vulnérabilité à l'autre, en tant quand même.
En tant qu'autre.
En tant qu'autre.
J'entends bien.
Et qu'il y a... Même s'il est mon ennemi, il y a quelque chose d'aimable en lui. L'épître de Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est cette affirmation d'un amour allié à une sorte de destitution de son objet. Voilà, je ne reconnais pas l'idée que je me fais de la tradition biblique de l'amour du prochain. Lucrèce, Lucienne Isidane.
Effectivement, dans l'agapé tel que la présente Nigraine, il n'y a pas d'objet.
Ah oui, mais oui.
Il va même très loin parce qu'il y a une citation où il dit, lui il parle surtout de Paul pour asseoir sa théorie, enfin, et il dit que Paul élimine l'éros. Donc alors, élimine l'amour humain.
Oui, mais alors vous dites ça aussi, Lucrèce Susanne Isidane, parce qu'en fait, et notamment dans votre livre consacré à la cédille, dont nous allons tout de suite donner la définition, vous régler son compte, si je puis dire, à l'agapé. C'est quand même la part sombre de notre héritage. Vous citez Nietzsche, le christianisme a fait boire du poison à Eros, il n'en est pas mort, mais il est devenu vicieux. Et ce poison, n'est-ce pas d'une certaine manière l'agapé? Ne plaidez-vous pas en réalité pour une sorte d'affranchissement de l'Eros dans son innocence peut-être, à l'égard d'agapé? L'agapé n'est-il pas en quelque sorte la grande maladie inoculée par le christianisme à l'Occident?
On ne peut pas dire que c'est la grande maladie, mais la grande maladie c'est la cédie justement.
Oui, mais la cédie n'est-il pas le symptôme?
Oui,
précisément,
c'est ce que
pour vous.
Je l'appelle dans mon livre le vice de forme du christianisme.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire par là qu'il y a eu querelle, Eros et Agapé. Parce que ce qui est intéressant dans toute cette histoire, en tout cas quand on lit le livre de Nigraine, je reviens à Nigraine, parce que c'est lui qui parle de cette. C'est lui qui met en lumière la querelle, Eros et Agapé. Hein?
Oui.
Bon. Le problème, c'est que Nigraine ne donne aucune solution. C'est pour ça qu'il a été, je pense, si mal reçu par toute la tradition. Parce que Nigraine est un auteur qui est à la fois encensé et à la fois extrêmement critiqué. Parce qu'il ne donne aucune solution à cette querelle, c'est-à-dire qu'il pose l'antinomie de ces deux amours.
Mais vous en donnez une un peu quand même.
De
solution. C'est-à-dire, dès lors que vous dites que c'est par agapé que le venin est entré dans le christianisme, qu'il est à l'origine de la maladie chrétienne, que la maladie chrétienne, c'est l'acédie, c'est-à-dire une sorte de vague à l'âme, de tristesse, d'ennui, de découragement, un manque de goût pour les choses spirituelles, etc. Donc, d'une certaine manière, vous apportez la solution. Et la solution, ce serait de nous détourner d'agapé pour Eros.
Ah, ce serait de vivre le plus possible et le mieux possible son Eros, oui.
Oui, c'est ça que vous dites.
À la suite de Nietzsche, de Freud, et puis d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lorenz, qui aussi prône cet accomplissement de l'Eros.
Oui, c'est ça. Donc,
De l'amour humain, de l'être humain, de ce que c'est que d'être un être humain avec tout ce que ça comporte de narcissisme, puisque c'est ça qu'on appelle égocentrisme. Mais en fait, c'est le narcissisme. Enfin, en psychanalyse, ça s'appelle le narcissisme. Et l'homme est fondé par son narcissisme.
Michel Terechenko, alors, vous plaidez contre une opposition trop radicale entre intérêt et désintéressement, mais vous n'allez peut-être pas jusqu'à dire que le salut passe simplement par la réaffirmation du narcissisme.
Non, c'est pas ça qui. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, c'est parce que pour revenir à la question que vous posez, qui est la question fondamentale, est-ce que c'est un amour qui a un destinataire ou qui n'en a pas? Il faut rappeler d'abord très brièvement que Nigraine est un protestant et qui s'inscrit dans cette théologie protestante de la critique radicale de tout mérite humain. Mais indépendamment de ça, pour revenir quand même à ce que vous disiez, ça veut dire quand même que l'amour chrétien, cet amour n'est pas fondamentalement dépendant ni d'un intérêt, ni d'un bénéfice, ni même du mérite de l'autre en tant que tel. Qu'il est capable de se donner, effectivement, d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, indépendamment de tout mérite. Pas parce qu'il est un néant, mais parce qu'il peut aussi être un salaud, parce qu'il peut être un ennemi, etc. Relisons, par exemple, je ne sais pas, voyons la figure du Tsaretz Zosime dans Les Frères Karamazov. On a eu peu d'images, effectivement, de cet amour qui se donne à tous ceux qui venaient visiter ce Tsaretz, qui en réalité est une incarnation des Tsaretz d'Optina en Russie. Mais je vous donnais juste un exemple, parce que je crois que c'est assez éclairant. Dans le monde russe, par exemple, dans le christianisme oriental, dans le monde russe, une des plus grandes figures, aujourd'hui encore vénérée par le peuple chrétien en Russie, s'appelait Séraphine Vessarov. Séraphine Vessarov, il passe 40 ans dans le désert, ou je crois des dizaines d'années dans le désert, et puis il sort comme une espèce de lumière. Et il accueillait toute la Russie venait le voir. Il est mort dans les années 1830. Aujourd'hui encore, toute la Russie venait le voir comme un saint extraordinaire. Et il accueillait tout le monde en l'appelant ma joie. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est ça, l'agapé. C'était cet amour absolu, total, inconditionnel, lumineux, qui accueillait tout homme, quel qu'il soit. Assassin. Et ça, c'est vrai que dans la tradition russe, jusque chez Dostoïevski, on trouve ça absolument partout. Et est-ce que c'est de l'éros? Est-ce que c'est de l'agapé? Non, c'est de la Et bien sûr que c'était une grâce, qu'il avait reçu cette grâce, effectivement, d'aimer tout homme. Mais les gens pleuraient. Les gens venaient de tous les milieux, les paysans, les aristocrates, etc. Enfin, tout le monde venait le voir. Et avec une ferveur et un amour. Et nous, on n'a pas tellement d'exemples de ça dans notre tradition, de cet amour absolu, inconditionnel, humain et tellement affectif en même temps. Est-ce que c'est de l'eros? Est-ce que c'est de l'agapé? Égoïste? Et dites-moi, intérêt, désintéressement? Il a passé 40 ans dans le désert avant d'arriver à ce sommet. Égoïste. Il est sorti ensuite pour accueillir des milliers, des dizaines de milliers de pèlerins. Agapé. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas très bien comme ça.
Oui, ces critères ne fonctionnent pas. Mais pour en revenir peut-être, enfin ce que vous avez dit est tout à fait fascinant, simplement pour en revenir, Lucrèce Luciani Zidane a des formes d'amour plus accessibles en quelque sorte. Et je voudrais cette fois-ci lire un passage du séminaire de Roland Barthes, la préparation du roman. Et j'ai choisi Roland Barthes parce qu'il y a chez Barthes, et vous ne pouvez pas l'ignorer, vous qui êtes la grande spécialiste de la cédille, une magnifique réflexion sur ce thème de la cédille, péché, oublié d'ailleurs. Il revient à plusieurs reprises, il décrit ce moment répété, étalé, insistant, où nous en avons assez de notre manière de vivre, de notre rapport au monde, cette perte d'investissement, deuil de l'investissement lui-même et non de la chose investie, sécheresse de cœur. Il est avaseux, dit Barthes aussi. Et puis, il a cette définition extraordinaire, vraiment absolument extraordinaire, de ce qu'éprouve l'écrivain en panne. Une paresse désespérée. Ça, je dois dire,
on connaît.
Plus belle définition d'une acédie,
en effet, paresse
voilà, désespérée. Que l'on peut, hélas, être amené à éprouver.
Bernanos dit fatigue encrassée.
Voilà, fatigue encrassée, paresse désespérée. Et puis, le même Barthes, qui veut justement sortir de la cédille et connaître la vie nouvelle de l'écriture d'un roman, retrouve l'opposition de l'éros et de l'agapé. C'est une manière de dire qu'il n'impute pas la cédille à l'agapé même. Il dit simplement « Les blessures du désir peuvent être recueillies, transcendées par l'idée de faire un roman. Mais alors, il y a tout d'un coup, quand dans le roman qu'il fantasme, il ne s'agit plus d'amour amoureux, mais d'amour agapé, même s'il y a une rémanence constante d'éros.
Ah.
Amour amoureux, c'est parler de soi amoureux, lyrique. Tandis que l'amour agapé, c'est parler des autres qu'on aime, roman. Dire ce qu'on aime, peindre ce qu'on aime. On n'est plus dans le lyrisme, ou au contraire, on exprime son sentiment. Il y a un égocentrisme lyrique. On s'oublie au profit de ce qu'on aime. Et n'y a-t-il pas, alors on va, si vous voulez, dans l'amour, quelle qu'en soit la portée, quel qu'en soit le champ, quelle qu'en soit la définition, une dimension d'oubli de soi, que précisément, dont la tradition de l'éros ne tient pas vraiment compte. Que faites-vous, vous qui plaidez, Lucrèce Luciani Zidane, pour cette réhabilitation du narcissisme, comme s'il avait besoin d'être réhabilité
oui,
de nos jours.
Oui, c'est vrai.
De cette...
Pas une réhabilitation, mais une prise en compte.
Cette prise en compte
voilà,
du narcissisme. De cette dimension extraordinaire de l'oubli de soi, de cette libération à l'égard de soi-même qu'on éprouve dans l'amour, quelle qu'en soit finalement la nature, n'est-ce pas? Le point commun à tous les états amoureux, l'oubli de soi.
Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, bien sûr, quand on tombe amoureux ou quand on aime, il y a un oubli de soi. Mais est-ce qu'on peut pour autant aller jusqu'à l'appeler l'agapé? Est-ce qu'on peut pour autant...
Oui, peut-être pas, mais alors, et en même temps, on l'appelle comment alors? Est-ce qu'il n'y a pas, alors on n'est pas obligé de l'appeler l'agapé,
oui,
de toute
oui,
façon
oui.
Personne ne l'appelle comme
oui,
ça ben aujourd'hui,
voilà,
mais,
voilà.
Mais ne doit-on pas tenir compte de cette autre tradition de l'amour, justement, cette tradition biblique, pour rendre justice à la part d'oubli de soi, ou bien d'abnégation, ou bien de désintéressement qu'il y a dans l'amour. Et là, je pose la question à Michel Terechenko.
Moi, pour répondre à votre question, s'agissant de l'amour, ou même des actions de bienveillance, moi, je ne parlerai pas tellement d'oubli de soi. Moi, je parlerai plutôt de dépense de soi, de générosité. Pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on est toujours... Et c'est intéressant parce qu'on est toujours, au fond, ramené à cette idée d'oblation, de don, etc. Mais le don peut être une générosité, peut être une expression, peut être une réalisation expansive et libérale de soi-même sans que ça relève de l'oubli de soi. Moi, je ne crois pas qu'on doive nécessairement penser dans ces termes-là.
Oubli de soi, vous avez raison, mais peut-être faudrait-il dire dissymétrie, faire passer l'autre avant soi, ou pour reprendre une expression de Lévinas, dont on pourrait dire qu'il est un penseur de l'agapé, oui, même si ce n'est pas son langage.
Si, si, oui, sûrement.
Mais en tout cas, c'est une manière aussi de contester la césure entre les deux testaments qui est si présente chez Nigren, parce que la référence biblique de Lévinas, elle est dans le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Ancien Testament. Ben, Lévinas parle du virement du pour soi en pour autrui. Donc, c'est ça l'oubli de
soi.
Oui,
mais
on pense à l'autre, pour parler plus banalement, presque trivialement, avant de penser à soi. Et finalement, c'est ça ce que dit Jean Kelevitch, on est content, il y a une sorte d'allègement. On se dit, ben oui, tout d'un coup, on ne suit pas simplement son propre intérêt.
C'est quand même
la définition. On est aliéné et on est libéré par cette aliénation même.
Oui, c'est la définition de la passion quand même aussi.
Oui, enfin, tout à fait.
C'est vraiment la passion amoureuse.
Cette passion qui est une aliénation ultime, on peut la vivre aussi comme une libération.
Oui, mais c'est aussi dans les images qu'on peut mobiliser entre égoïsme et au contraire libération, abnégation. Il y a aussi l'idée d'un petit moi étriqué et puis au contraire un moi élargi, un moi expansif que la passion, par exemple, l'amour, le sentiment amoureux, etc., nous rend élargi, nous élargit, nous ouvre, nous enrichit, etc. C'est pas nécessairement de l'abnégation. Vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé ensemble des cas des sauveteurs des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je songe à Wallenberg.
Oui.
Et vous aviez retenu cette expression, Wallenberg. Ce jeu, la part du jeu, que je prends un jeu. Il risquait sa vie. Et de fait, il a été emprisonné et il a disparu. Après avoir sauvé effectivement des milliers de Juifs. Voilà, absolument. Mais il dit, j'aime ce jeu. C'est quelque chose qui relevait du jeu, d'une dimension ludique, d'une dimension d'intelligence, de réalisation de soi. Ce n'était pas de l'oubli de soi, ce n'était pas de l'abnégation et de l'oblation. Je crois qu'on est trop, si vous voulez, effectivement marqué par cette perspective que je reproche, moi, à Nigren, malgré tout l'intérêt formidable que l'on prend à lire ce texte, que je lui reproche d'accréditer et sur laquelle il fonde, au fond. Je crois qu'on retombe en permanence là-dedans. Chez Nietzsche, il n'y a pas ça, justement. Il essaye d'échapper à ça, aussi bien l'intérêt au désintéressement, dans cette générosité, dans cette dépense, etc. Mais l'idée d'un petit moi étriqué sur lequel le monde se ferme, comme à la fin de l'écume des jours, etc., ou au contraire un moi élargi, un moi expansif, un moi riche, c'est une autre image, ça.
Alors,
je trouve.
En même temps, je vous entends très bien, Michel Terechenko, mais alors, il faudrait dire que d'une certaine façon, vous prenez parti dans cette querelle et vous réintégrez, justement, la générosité. Et en citant Nietzsche, d'ailleurs, vous le montrez très bien, vous réintégrez la générosité dans l'éros. Vous dites, peut-être n'a-t-on pas besoin de l'agapé, de cette rupture que l'agapé représente. Peut-être que tout ça, c'est une modalité de l'éros.
Oui, pourquoi pas.
Donc oui, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, vous seriez...
Non mais moi, je vous dis, je suis gêné par la façon de poser le problème qui ne me paraît pas tout à fait pertinente et juste. Donc à partir du moment où s'il faut trancher, moi je suis contre, si vous voulez, pour des raisons théoriques fondamentales, cette opposition radicale. Alors savoir ensuite si est-ce qu'il y a de l'éros dans l'agapé, de l'agapé dans l'éros, on peut soutenir sans doute l'une et l'autre position. S'il s'agit plutôt d'une générosité, d'une d'une dépense, d'une expansion, d'une libéralité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que même théologiquement, par exemple, Bossuet explique contre Fénelon que précisément Dieu est libéral et que Dieu se communique, que c'est la libéralité communicative de Dieu qui est précisément à l'origine de tout. Donc, c'est dit de dépense, de générosité, d'excès, etc. Est-ce que c'est un excès ? Est-ce que c'est un excès dans le désir ou dans l'éros ? Peut-être, oui.
Mais en même temps, il faut introduire des distinctions. Il y a l'amour possessif, il y a la volonté de s'approprier l'autre, de le dominer, il y a la pure et simple satisfaction du désir, la gratification qu'on en obtient, et puis il y a aussi...
Ou l'absence de gratification.
Et peut-être, non, mais une forme de dépendance à l'égard d'autrui, ou ce que dit Jean Kelevitch, ce moment extraordinaire où on ne pense pas simplement à son propre intérêt. Alors peut-être est-ce une ouverture du moi, mais c'est aussi quand même une rupture avec le train de l'être, avec la pure et simple persévérance dans l'être. Et c'est peut-être cette dimension-là de l'existence qui est rappelée par l'agapé, Lucrèce Lucienne
Isidane. Cette dimension, c'est-à-dire sa dimension de...
Je veux dire, l'être, l'homme est un être qui persévère dans son être, qui veut accroître son être, et puis il lui arrive quelque chose du fait d'autrui.
Mais est-ce que c'est une opposition radicale ? Parce que la persévérance dans l'être et cette espèce d'accomplissement, de réalisation, d'augmentation de soi, cette augmentation de soi, elle passe par la relation à l'autre. Elle ne s'oppose pas d'une certaine manière à la relation à l'autre. Cette augmentation de soi, quelle augmentation de soi pourrait-il jamais y avoir sans la relation à l'autre ? Ça n'existe pas, il n'y a pas d'accomplissement et d'augmentation de soi si nous ne sommes pas fondamentalement en relation avec les autres et que c'est comme ça que ça se passe humainement.
Ah mais justement, mais...
Oui, c'est comme ça que ça se passe humainement.
Mais oui, humainement. Et vous rappelez humainement, mais moi je rappelle pour finir, puisque l'émission se termine, cette très belle phrase de Jean Kelevitch, dans une éthique qui jusque-là semblait administrer mon seul perfectionnement individuel, donc peut-être l'éthique grecque, l'amour signifie l'insertion paradoxale, soudaine, inexplicable de l'autre. Et peut-être que l'agapé, c'est ça, l'insertion paradoxale, soudaine, inexplicable de l'autre.
Peut-être, mais non.
Mais vous n'êtes pas convaincu.
Je ne suis pas convaincu, non.
Vous n'êtes pas convaincu. Bon, bah écoutez, je renvoie donc à la lecture du livre de Nigren, paru en 3 volumes aux éditions du Cerf, Eros et Agapé, avec une présentation de Lucrèce Lucienne Isidane.
Grâce à l'éditeur Nicolas Jancède, que je profite ici pour remercier vraiment.
Et vous avez raison de le faire, parce que ce livre est très important et il était devenu indisponible. Vous avez publié simultanément L'Acédie, le vice de forme du christianisme, de Saint-Paul à Lacan, chez le même éditeur. Et je voudrais aussi rappeler le livre de Michel Terechenko, Amour et désespoir, de François de Sales à Fénelon. Il est publié dans la collection Point aux éditions du Seuil. Et puisque nous y avons fait référence, Dieu est amour, de Benoît XVI, aux éditions Paroles et Silence, c'est une lettre encyclique sur l'amour chrétien, et Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus, les vertus et l'amour, chez Flammarion. La semaine prprochaine, ce sera la première des 5 rediffusions de l'été. Elle aura pour titre « Et si on lisait la princesse de Clèves ?» Mes invités étaient et seront Claude Habib et Hélène Merlin-Cajman. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.